Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec le titre. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie visite Bruxelles pour assister au comité conjoint de l'Union européenne et l'Indonésie. L'Indonésie a demandé au Myanmar de respecter les droits de l'homme dans l'état de Rakhine. Lemhanas et les médias ont des tâches nobles communes. BNP2TKI encourage la formation de LTSP à Batam. Les investisseurs finlandais sont prêts à réactiver le moulin à papier à Aceh. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, se rendra à Bruxelles pour assister au comité conjoint entre l'Indonésie et l'Union européenne le 28 et 29 novembre 2016. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans la conférence de presse récemment à Jakarta, a déclaré que le comité conjoint était la première réunion dans le cadre du mécanisme de coopération bilatérale qui a lancé l'Union européenne et l'Indonésie en 2014. Le but de ce comité conjoint est d'évaluer et de développer la coopération dans le cadre de l'accord entre l'Indonésie et l'Union européenne. Cette réunion montre la relation étroite entre l'Indonésie et l'Union européenne.
Beberapa peluang kerjasama yang kita ingin tingkatkan dengan EU dan sudah ada pembahasan beberapa.
Des questions qui seront discutées dans cette rencontre, entre autres, sur le commerce et l'investissement, la coopération de développement et sur la sécurité et les droits de l'homme. Quelques opportunités de coopération que nous voulons améliorer liées à l'environnement, la pêche et la marine et le problème du terrorisme. Les efforts de lutter contre le terrorisme sont les défis pour l'Indonésie et l'Union européenne au cours des dernières années. Selon M. Armanata Nasir, la discussion vise à renforcer la coopération et discutera review des négociations de l'accord de partenariat économique global de l'Union européenne et l'Indonésie qui a été commencé en septembre. Il y aura également le lancement de la licence des forêts, la gouvernance et le commerce qui devient la réalisation de l'Indonésie en tant que premier pays à obtenir la certification de l'Union européenne. L'Indonésie surveille les situations dans l'état de Rakhine, le Myanmar, sur les violences commises par l'armée de Myanmar aux musulmans Rohingyas. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a déclaré récemment que la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a parlé avec le ministre des Affaires étrangères de Myanmar pour obtenir les dernières informations et transmettre les points de vue de l'Indonésie. Dans la conférence de presse récemment à Jakarta, M. Armanata Nasir a déclaré que l'Indonésie était préoccupée par la situation de la sécurité dans l'État Rakhine et souhaite que le gouvernement de Myanmar puisse rétablir immédiatement la situation dans l'État de Rakhine. L'Indonésie soutient également les réformes actuellement au Myanmar.
Kita menekankan bahwa perlindungan dan penghormatan.
Nous insistons que la protection et le respect aux droits de l'homme pour toute la communauté dans l'état de Rakhine, y compris les minorités musulmanes, doivent être respectés et maintenus. Nous avons également dit la bonne coopération entre l'Indonésie et le Myanmar au niveau bilatéral pour soutenir la réforme au Myanmar et le développement inclusif dans l'état de Rakhine. Nous sommes prêts à continuer. Selon M. Armanata, l'Indonésie a aidé le renforcement des capacités dans le contexte de la démocratisation de l'élection, la décentralisation et les droits de l'homme. Directement, l'Indonésie contribue au développement inclusif comme la construction d'écoles, les établissements de santé dans l'état de Rakhine et le Myanmar étant multi-ethnique comme l'Indonésie. Les défis rencontrés par l'Indonésie dans le maintien d'une harmonie multi-ethnique sont également confrontés par le Myanmar. Mais le Myanmar actuellement face aux divers défis liés au mouvement séparatiste dans l'état de Rakhine et le nord-ouest. Le ministre Retno a rappelé que l'aide humanitaire devait être fournie de manière inclusive et ne fait pas de distinction entre les groupes ethniques là-bas. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef de l'Agence nationale pour le placement et la protection des travailleurs indonésiens, M. Nusron Wahid, dans une réunion avec la Commission 9 du Parlement indonésien à Jakarta récemment, a déclaré qu'on nécessite la formation du service du guichet unique pour résoudre les problèmes des travailleurs illégaux indonésiens qui entrent souvent en Malaisie par les îles de Riau. Selon lui, la présence du service du guichet unique sera le moyen de la légalisation du travail indonésien qui ne dispose pas d'un document complet sans devoir revenir à sa ville natale. Par conséquent, comment la façon on est ouvert le service du guichet unique sans devoir rentrer à la maison et le service de carte d'identité pour IKTP existe déjà, ouvert à Batam. Le passeport est fait à Batam et puis pour faire le processus du nouveau visa là-bas avec un nouveau contrat. Selon Nusron Wahid, actuellement le service du guichet unique existe déjà à Nunukan, Kalimantan du Nord. Sa présence là-bas a été prouvée d'être efficace pour aider les travailleurs migrants indonésiens à obtenir la légalisation, notamment pour ceux qui viennent de l'est de l'Indonésie. Nusron espère des choses similaires peuvent être réalisées à Batam. En outre, d'autres efforts qui peuvent être faits pour aider les travailleurs indonésiens illégaux et les efforts blanchissants. Mais cela dépend de la politique intérieure du gouvernement malais. L'Institut national de résilience ou l'EMHANAS et les médias ont joué un rôle important dans la résurrection du nationalisme pour développer les piliers de la nation. Les deux domaines ont la valeur stratégique de changer l'état d'esprit des gens pour être plus constructifs. Il a été dit par le gouverneur de l'EMHANAS, M. Agus Wijoyo, lors d'une réunion amicale et une réflexion sur la condition de la défense nationale en 2016 entre l'EMHANAS, rédacteur en chef, et les journalistes à Jakarta récemment. L'EMHANAS et les médias ont un rôle important et ils peuvent se compléter. Le règlement présidentiel numéro 67, l'année 2016, l'EMHANAS a pour mission d'éduquer et de préparer les dirigeants nationaux, de faire des études stratégiques et d'éduquer les gens sur le nationalisme. Parallèlement, la loi de presse numéro 40, l'année 1999, ont joué en comme média d'information, d'éducation, de divertissement et de contrôle social. Selon M. Agus Wijoyo, la synergie entre l'EMHANAS et les médias pourrait devenir des valeurs stratégiques dans le contexte du développement national qui peut être réalisé dans la vie digne, justice, harmonieuse, sécuritaire et pacifique. Le ministère d'Entreprise d'État à Aceh fixe des objectifs de s'opérer à nouveau PT Cartas Graphe au premier trimestre en 2017, en ligne avec l'afflux des investisseurs en provenance de la Finlande, Floresta. C'est ce qu'a déclaré le vice pour la restructuration et le développement des affaires du ministère des Entreprises d'État, Aloysius Kirou, lorsqu'il a accompagné la ministre des Entreprises publiques, Madame Rini Sumarno, lors du lancement du centre de données de Telin 3 appartient de Telkom Group à Singapour, mercredi. Selon Aloysius, la diligence raisonnable entre dans la phase finale qui sera achevée avant la fin de 2016. La diligence raisonnable couvre le processus de recherche de partenaires locaux et étrangers, y compris la certitude de fourniture de gaz naturel, ainsi que le bois de pin qui provient des forêts gérées par PT Kertas Graphe Aceh. Les parties qui seront impliquées dans le système de coopération opérationnelle couvrent Florestas, y compris les partenaires locaux tels que PT Semen Indonesia et PT Perusahaan Aset. Aloysius Glikro a déclaré qu'il y avait un accord pour les parties de la coopération opérationnelle pour la certitude des matières premières, y compris le capital. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Septième longtemps après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la Corée du Sud dans la crise. La position présidentielle de la Corée du Sud détenue par Park Geun-hye n'est plus confortable pour elle. La semaine prochaine, le Parlement sud-coréen tiendra une vote pour décider le destin de la première femme présidentielle de la Corée du Sud. Le Parlement sud-coréen a le projet de faire l'action après l'enquête sur des scandales présumés de corruption impliquant le président Park Geun-hye. Certaines entreprises importantes telles que Samsung, Lotte et SK ont fait l'objet d'une enquête parce que les compagnies sont soupçonnées de donner des fonds à Choi Soon-sil, un ami proche du président Park. Une autre institution qui est également soupçonnée de donner des fonds est la Caisse nationale de retraite. Cette institution est le plus grand actionnaire de Samsung Citicorp qui a prouvé la fusion de Samsung Citicorp et Chey l'année dernière. Cette fusion a été critiquée pour faire de la valeur des actions de Samsung à chuter, mais considérée comme cruciale pour la survie de la famille fondatrice de Samsung pour la troisième génération. L'argent illicite de Samsung aurait été utilisé par Choi Soon-sil et Park Geun-hye pour financer la politique d'autonomisation des communautés culturelles et le sport. On estime que plus de 200 milliards roupias ont été envoyés par Samsung à la fondation gérée par Choi. En contrepartie, les entreprises ont reçu des licences pour leurs affaires qui sont exemptes d'impôts. Le président Park Geun-hye, dans son discours nostalgique il y a 3 semaines, a présenté ses excuses à la population de la Corée du Sud pour les scandales de corruption qui minent son administration. Elle est prête à être interrogée par les autorités pour enquêter le scandale. Elle a également affirmé qu'elle doit assumer la pleine responsabilité du scandale et est prête à coopérer avec les procureurs dans l'enquête de ce cas. Les procureurs doivent expliquer ce qui se passe et tous ceux qui sont impliqués, y compris le président Park, doivent être responsables s'ils sont reconnus coupables. Pendant ce temps, Choi Soon-sil, à la fin d'octobre 2016, est retourné en Corée de l'Allemagne et a demandé des excuses au public avant qu'il ait été détenu depuis le 31 octobre 2016. Un jour avant l'arrivée de Choi, des milliers de Sud-Coréens ont manifesté en demandant la démission du président Park Geun-hye qui considérait avoir trahi son propre peuple. À la suite du scandale, certaines personnes proches de l'administration présidentielle ont décidé de démissionner. Nous nous attendons à ce que le peuple de Corée du Sud puisse obtenir la justice pour la tragédie embarrassante. Espérons que le scandale pourrait être résolu et les parties liées au scandale devraient être tenues responsables. Ce qui s'est passé en Corée peut être une bonne leçon que d'être un leader ne signifie pas qu'il ou elle peut faire quoi que ce soit sans être contrôlé directement par le peuple ou le Parlement. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Le 25 novembre est la journée des enseignants. La journée de l'enseignant est une journée de l'anniversaire de l'Association des enseignants de la République Indonésie ou Persatuan Guru République Indonesia ou PGRI. L'embryo de cette association a été préfixé avec le nom de l'Association des enseignants des Andes orientales néerlandaises en 1912. Puis le nom a été changé à l'Association des enseignants indonésiens en 1932. Plus tard, l'esprit qui anime la programmation du 17 août 1945 a mis en œuvre dans le congrès des enseignants indonésiens les 24 et 25 novembre 1945 à Surakarta. Dans ce congrès, toutes les organisations et groupes d'enseignants, en fonction des différences de diplômes, l'environnement de travail, l'environnement régional, la politique, la religion et les groupes ethniques étaient abolis. Également dans ce congrès, le 25 novembre 1945, 100 jours après la proclamation de l'indépendance de la République Indonésie, l'Association des enseignants de la République Indonésie a été créée. Novembre 2000, la première station de nouvelles de télévision Metro TV en Indonésie a officiellement diffusé à l'échelle nationale. Metro TV est une chaîne de télévision privée indonésienne fondée par la Société de Média Televisi Indonesia. La station a officiellement diffusé la chaîne depuis le 25 novembre 2000 à Jakarta. La propriétaire de la Société de Média Televisi Indonesia ou Metro TV et Surya Paloh. Précédemment, Metro TV a obtenu la permission de diffusion en octobre 1998 par le gouvernement après avoir obtenu son diplôme de faisabilité mené par l'équipe interministérielle. En fait, Metro TV a déjà commencé à diffuser le 1er août 2000 à Jakarta, mais a été officiellement diffusé le 25 novembre 2000. Novembre 1975, le Suriname était indépendant des Pays-Bas. La République du Suriname est un pays en Amérique du Sud qui était une ancienne colonie néerlandaise. Le pays est bordé par la Guyane française à l'est et la Guyane à l'ouest, le Brésil dans la frontière du sud et par l'océan Atlantique au nord. En 1530, le Néerlandais a établi le premier centre commercial dans cette terre. Le 15 décembre 1954, le gouvernement néerlandais ainsi que quelques représentants du Suriname a signé un protocole dont le contenu concernait la fin de la colonisation. Plutôt dans une grande réunion de table ronde en 1961, le représentant du Suriname, dirigé par le premier ministre Johan Adolf Pengel, ont exigé la mise en place de l'autonomie gouvernementale indépendante. Ces demandes étaient prises sérieusement par la tenue d'une conférence aux Pays-Bas en 1970. La conférence a été organisée pour discuter la préparation de la libération du Suriname en faisant le cabinet composé de représentants du parti. Puis Suriname est devenu un État indépendant le 25 novembre 1975. Cependant, l'économie de ce pays jeune reste à l'aide du développement du Pays-Bas.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité de La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditrices et chers auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre, l'Indonésie et les Pays-Bas établissent une coopération dans divers domaines. Les Pays-Bas est l'un des principaux partenaires de l'Indonésie en Europe. Comme preuve, les chiffres du commerce, l'investissement et les touristes des Pays-Bas sont élevés par rapport à d'autres pays européens. Pendant ce temps, la question du développement des infrastructures maritimes, le président Joko Widodo a dit que l'une des formes est la construction du port de Kuala Tanjung, le nord de Sumatra. En plus du secteur économique, l'Indonésie et les Pays-Bas coopèrent également dans le secteur de la lutte contre le terrorisme. Le président Joko Widodo a dit « L'Indonésie et les Pays-Bas sont déjà en bon partenariat pour lutter contre le terrorisme dans le centre de coopération en matière d'application de la loi de Jakarta situé à Semarang, Central Java. Les deux pays sont également actifs dans le Forum mondial antiterroriste. Enfin, la coopération des deux pays est dans le domaine de l'éducation. » L'Indonésie et les Pays-Bas ont convenu de coopérer en matière de formation de l'école professionnelle dans les domaines de l'agriculture, du changement climatique et de la gestion des déchets. Lors d'une réunion bilatérale, le président Joko Widodo encourage l'augmentation des exportations de bois indonésien vers les Pays-Bas. Les produits du bois indonésien, a déclaré le président, a été équipé d'un système de vérification de la légalité du bois, ou SVLK, comme une certification légale pour les produits de bois d'exportation indonésien en fournissant l'autorisation FLEC ou application des réglementations forestières de la gouvernance et du commerce qui permettent à l'Indonésie d'exporter du bois vers l'Union européenne sans faire face à des contrôles à tout port d'Europe. Selon le président Joko Widodo, l'Indonésie est le premier pays dans le monde qui dispose déjà de la licence de FLEC. L'Indonésie devrait utiliser bien cet avantage comparatif. Pendant ce temps, le premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, considère l'Indonésie un partenaire important pour les Pays-Bas. Comme la plus grande économie en Asie du Sud-Est, l'Indonésie est considérée comme ayant un rôle important dans la région afin que les Pays-Bas aient engagé à améliorer toujours le partenariat. Selon lui, les Pays-Bas, comme pays de destination principale des exportations de l'Indonésie, néerlandaise en Europe et sont inclus également dans les principaux investisseurs en Indonésie. La valeur de transactions des échanges entre les deux pays ont atteint 3,2 milliards de dollars en 2016. À la fin d'un communiqué de presse conjoint, Mark Rutte donne le Christ au président Joko Widodo comme symbole de soumission d'un 1500 artefacts dans la collection de Schiphol se trouve au musée de Delft. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, se rendra à Bruxelles pour assister au comité conjoint entre l'Indonésie et l'Union européenne le 28 et 29 novembre 2016. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans la conférence de presse récemment à Jakarta, a déclaré que le comité conjoint était la première réunion dans le cadre du mécanisme de coopération bilatérale qui a lancé l'Union européenne et l'Indonésie en 2014. Le but de ce comité conjoint est d'évaluer et de développer la coopération dans le cadre de l'accord entre l'Indonésie et l'Union européenne. Cette réunion montre la relation étroite entre l'Indonésie et l'Union européenne.
Peluang kerjasama yang kita ingin tingkatkan dengan EU dan sudah ada pembahasan beberapa.
Des questions qui seront discutées dans cette rencontre, entre autres, sur le commerce et l'investissement, la coopération de développement et sur la sécurité et les droits de l'homme. Quelques opportunités de coopération que nous voulons améliorer liées à l'environnement, la pêche et la marine et le problème du terrorisme. Les efforts de lutter contre le terrorisme sont les défis pour l'Indonésie et l'Union européenne au cours des dernières années. Selon M. Armanata Nasir, la discussion vise à renforcer la coopération et discutera review des négociations de l'accord de partenariat économique global de l'Union européenne et l'Indonésie qui a été commencé en septembre. Il y aura également le lancement de la licence des forêts la gouvernance et le commerce qui devient la réalisation de l'Indonésie en tant que premier pays à obtenir la certification de l'Union européenne. L'Indonésie surveille les situations dans l'état de Rakhine, le Myanmar, sur les violences commises par l'armée de Myanmar aux musulmans Rohingyas. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, a déclaré récemment que la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a parlé avec le ministre des Affaires étrangères de Myanmar pour obtenir les dernières informations et transmettre les points de vue de l'Indonésie. Dans la conférence de presse récemment à Jakarta, M. Arman Atanasir a déclaré que l'Indonésie était préoccupée par la situation de la sécurité dans l'État Rakhine et souhaite que le gouvernement de Myanmar puisse rétablir immédiatement la situation dans l'État de Rakhine. L'Indonésie soutient également les réformes actuellement au Myanmar. Nous insistons que la protection et le respect aux droits de l'homme pour toute la communauté dans l'État de Rakhine, y compris les minorités musulmanes, doivent être respectés et maintenus. Nous avons également dit la bonne coopération entre l'Indonésie et le Myanmar au niveau bilatéral pour soutenir la réforme au Myanmar et le développement inclusif dans l'État de Rakhine. Nous sommes prêts à continuer. Selon M. Armanata, l'Indonésie a aidé le renforcement des capacités dans le contexte de la démocratisation de l'élection, la décentralisation et les droits de l'homme. Directement, l'Indonésie contribue au développement inclusif comme la construction d'écoles, les établissements de santé dans l'État de Rakhine et le Myanmar étant multi-ethnique comme l'Indonésie. Les défis rencontrés par l'Indonésie dans le maintien d'une harmonie multiethnique sont également confrontés par le Myanmar. Mais le Myanmar actuellement face aux divers défis liés au mouvement séparatiste dans l'État de Rakhine et le Nord-Ouest. Le ministre Retno a rappelé que l'aide humanitaire devait être fournie de manière inclusive et ne fait pas de distinction entre les groupes ethniques là-bas. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef de l'Agence nationale pour le placement et la protection des travailleurs indonésiens, M. Nusron Wahid, dans une réunion avec la Commission 9 du Parlement indonésien à Jakarta récemment, a déclaré qu'on nécessite la formation du service du guichet unique pour résoudre les problèmes des travailleurs illégaux indonésiens qui entrent souvent en Malaisie par les îles de Riau. Selon lui, la présence du service du guichet unique sera le moyen de la légalisation du travail indonésien qui ne dispose pas d'un document complet sans devoir revenir à sa ville natale. Par conséquent, comment la façon on est ouvert le service du guichet unique sans devoir rentrer à la maison et le service de carte d'identité pour IKTP existe déjà, ouvert à Batam. Le passeport est fait à Batam et puis pour faire le processus de nouveau visa là-bas avec un nouveau contrat. Selon Nusron Wahid, actuellement le service du guichet unique existe déjà à Nunukan, Kalimantan du Nord. Sa présence là-bas a été prouvée d'être efficace pour aider les travailleurs migrants indonésiens à obtenir la légalisation, notamment pour ceux qui viennent de l'est de l'Indonésie. Nusron espère des choses similaires peuvent être réalisées à Batam. En outre, d'autres efforts qui peuvent être faits pour aider les travailleurs indonésiens illégaux et les efforts blanchissants. Mais cela dépend de la politique intérieure du gouvernement malais. L'Institut national de résilience ou l'EMHANAS et les médias ont joué un rôle important dans la résurrection du nationalisme pour développer les piliers de la nation. Les deux domaines ont la valeur stratégique de changer l'état d'esprit des gens pour être plus constructifs. Il a été dit par le gouverneur de l'EMHANAS, M. Agus Wijoyo, lors d'une réunion amicale et une réflexion sur la condition de la défense nationale en 2016 entre l'EMHANAS, rédacteur en chef et les journalistes à Jakarta récemment. Lemhanas et les médias ont un rôle important et ils peuvent se compléter. Le règlement présidentiel numéro 67, l'année 2016, Lemhanas a pour mission d'éduquer et de préparer les dirigeants nationaux, de faire des études stratégiques et d'éduquer les gens sur le nationalisme. Parallèlement, la loi de presse numéro 40, l'année 1999, ont joué en comme média d'information, d'éducation, de divertissement et de contrôle social. Selon M. Agus Wijoyo, la synergie entre les Lemhanas et les médias pourrait devenir des valeurs stratégiques dans le contexte du développement national qui peut être réalisé dans la vie digne, justice, harmonieuse, sécuritaire et pacifique. Le ministère d'Entreprise d'État à Aceh fixe des objectifs de s'opérer à nouveau PT Kertas Graf au premier trimestre en 2017, en ligne avec l'afflux des investisseurs en provenance de la Finlande, Floresta. C'est ce qu'a déclaré le vice pour la restructuration et le développement des affaires du ministère des Entreprises d'État, Aloysius Kiru, lorsqu'il a accompagné la ministre des Entreprises publiques, Mme Rini Sumarno, lors du lancement du centre de données de Telin 3 appartient de Telkom Group à Singapour, mercredi. Selon Aloysius, la diligence raisonnable entre dans la phase finale qui sera achevée avant la fin de 2016. La diligence raisonnable couvre le processus de recherche de partenaires locaux et étrangers, y compris la certitude de fourniture de gaz naturel, ainsi que le bois de pin qui provient des forêts gérées par PT Kertas Graf Aceh. Les parties qui seront impliquées dans le système de coopération opérationnelle couvrent Florestas, y compris les partenaires locaux tels que PT Semen Indonesia et PT Perusahaan Aset. Aloysius Glikro a déclaré qu'il y avait un accord pour les parties de la coopération opérationnelle pour la certitude des matières premières, y compris le capital. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais présenter un parc de Pandang Istana situé à Jakarta. Alors, restez toujours avec nous à RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Outre par l'onde courte, vous pouvez également écouter notre émission par www.voi.co.id. Le palais présidentiel est devenu l'un des endroits ciblés pour les manifestants lors d'une manifestation, précisément au nord-ouest de la porte du monument. Voilà où ils transmettent généralement les aspirations et espèrent le président écoute et réalise leurs désirs. En voyant les manifestants fréquents ont démontré à cet endroit, le gouvernement provincial de Jakarta construit un parc à cet endroit. Son nom est le parc Pandang Istana qui a été inauguré par le gouverneur Basuki Cahaya Purnama en juillet 2016. Le parc a été initialement nommé le parc d'aspiration parce que les citoyens fréquents transmettent les aspirations ici, mais a été rebaptisé le parc pendant Istana. En raison, à partir de cet emplacement, des manifestants peuvent voir le palais en transmettant leurs aspirations. Le parc pendant Istana est construit comme un moyen pour les gens d'exprimer des idées et des aspirations à travers des activités créatives et collaboratives. La construction du parc est faite par le gouvernement provincial de Jakarta en collaboration avec Holcim, Karas Creative Placemaking et Grafis Yasser Rizki. Le concept de ce parc est l'art pour la liberté d'expression avec la construction respectueuse de l'environnement. La construction du parc introduit la technologie de TrueGrade, à savoir le béton poreux, pour une meilleure absorption des eaux. En plus d'être l'emplacement pour organiser des manifestations, le parc de Pandang Istana sert également comme un endroit pour présenter de diverses créations artistiques et des sites touristiques. Il y a des installations, des arts et vous pouvez prendre des photos. De l'avant du parc, vous pouvez voir l'installation de la typographie en trois dimensions composée d'un banc de parc, des installations sculpturales, ragam dan insan, l'installation sur le sol sous la forme de citations inspirant des personnages, les héros de l'Indonésie et aucune citation de Abdul Rahman Wahid, Muhammad Hatta, Y.B. Mangun Wijaya et Buya Hamka, ainsi qu'une peinture murale ou des graffitis. Les touristes peuvent également trouver les arbres par les ornements suspendus qui sont faits par des méthodes de tissage. Tout devient coloré et beau à regarder. De plus, il y a aussi des lanternes. Dans la nuit, les lanternes seront très belles. On va construire le même parc dans la zone du rond-point Hotel Indonesia ou exactement dans l'ancienne terre de l'ambassade britannique. Car en plus du palais présidentiel, l'Hôtel Indonesia est également devenu l'un des emplacements d'offres des manifestations. Le bâtiment de l'ambassade n'a pas été démoli et sera transformé en un système de centre de transport. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleurs ayant pour titre la Journée nationale des professeurs 2016. Comme le respect et la reconnaissance à tous les enseignants indonésiens en Indonésie et dehors de l'Indonésie, le gouvernement de la République d'Indonésie a fixé le 25 novembre devient un grand jour pour les enseignants et la Journée nationale des enseignants. Ce qui devient la question est pourquoi le gouvernement indonésien a fixé le 25 novembre comme journée nationale des enseignants. Pour répondre à cette question, nous revenons à l'histoire de l'établissement de l'Association indonésienne des professeurs, ou PGRI. À l'époque de l'occupation hollandaise, l'organisation de la lutte des enseignants est formée en 1912 avec le nom l'Association néerlandaise des orientales des enseignants, ou PGASB. Cette organisation est unitariste, dont les membres sont des enseignants, aides à l'enseignement du village, le directeur de l'école et surintendant des écoles. À cette époque, l'enseignant n'est pas une lutte pour l'amélioration de la lutte, ne plus lutter pour l'égalité des droits de la position avec les Pays-Bas, mais il a éclaté dans une lutte nationale avec le cri Merdeka ou Indépendance. En 1932, le nom de l'Association néerlandaise des langues orientales des enseignants, PGASB, a été changé à l'Association indonésienne des enseignants, PGI. À l'occupation japonaise, toutes les organisations indonésiennes ont été interdites. Les écoles sont fermées, l'Association de professeurs indonésiens, PGI, ne peut plus effectuer l'activité. Après l'indépendance indonésienne, le 17 août 1945, l'esprit de proclamation anime la mise en œuvre du congrès indonésien des professeurs le 24 et 25 novembre 1945 à Surakarta. À travers de ce congrès, tous les organismes et groupes d'enseignants qui sont basés sur les différences de diplômés, l'environnement de travail, l'environnement régional, la politique, la religion et la tribu ont convenu d'être abolis. Dans ce congrès, le 25 novembre 1945, une centaine de jours après la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie, tous les enseignants d'Indonésie se déclarent unis dans l'Association indonésienne des enseignants PGRI. Grâce aux services et la lutte qui ont été faits par les enseignants dans le pays, le gouvernement indonésien, par le décret présidentiel numéro 78-1994, a fixé la date d'établissement de PGRI comme journée nationale de professeurs. Ce décret présidentiel a également été solidifié dans la loi numéro 14 en 2005 sur les enseignements et les professeurs qui a fixé le 25 novembre de chaque année et célébré comme la journée nationale des enseignants qui est souvent célébrée conjointement avec l'anniversaire de PGRI. Chers auditeurs, le thème de la Journée nationale des enseignants 2016 est « Les enseignants et magistrats grâce au travail » comme thème de HGN en 2015, le thème glorieux grâce au travail. Le pic de la convocation de la Journée nationale des professeurs se tiendra le 27 novembre à Central International Convention Center à Sentul Bogor, Java West. Selon le projet, le président Joko Widodo sera assisté ce pic de l'événement et plus d'un 1000 enseignants y assisteront aussi. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme l'enfant de notre émission, voici le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs et auditrices de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, où que vous soyez. Nous vous revenons encore dans la rubrique de magazine musical qui vous présente des divers genres de la musique indonésienne. Pour cette édition, je vous présente une chanteuse de dangdut indonésienne, étant très phénoménale, qui s'appelle Dewi Persik. Elle est aussi connue par son talent dans l'industrie cinématographique indonésienne comme une actrice. Sa popularité a augmenté depuis qu'elle parcourait des spectacles autour de l'Indonésie. Chers amis, voici la première chanson populaire de Dewi Persik, dont le titre est Akulah si cantik ou Moi la belle. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'est normal pour un artiste de se concentrer au métier qu'il maîtrise, mais Dewi Persik est différente. Avec son talent de jouer un rôle, Dewi Persik a déjà gagné des rôles principaux dans certains films, comme Mimpi Manis ou Bon Rêve et Layla. D'autres films dans lesquels elle a joué un rôle étaient les films d'horreur. Passons à sa musique, nous allons écouter une autre chanson de Dewi Persik, Bintang Pentas, ou en français, L'étoile du spectacle. Bonne écoute.
Thank you.
Merci, chers amis, d'être fidèles avec nous dans la rubrique de Magazine Musical qui, dans cette édition, vous présente des chansons de Dewi Parsik. Cette belle femme, dont le vrai nom est Dewi Muria Agung, a déjà joué dans au moins 14 films. Chers auditeurs, comme la fermeture de notre rencontre aujourd'hui, nous vous présentons deux chansons de Dewi Parsik qui s'intitulent Katawan ou Prison Flagrante et Mabouk ou Ivre. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre attention fidèle. Bonne écoute et au revoir.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.